Au gré du temps, passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro, détenteur d'un baccalauréat SR obtenu au Collège Saint-Viateur d'Outremont, ainsi que d'un lauréat en orgue et en piano de l'École Vincent d'Indy, il a poursuivi sa formation au Conservatoire de musique de Montréal en chant, direction d'orchestre, analyse et écriture pendant 6 ans. Il a également suivi des cours de perfectionnement en direction d'orchestre à l'Académie internationale d'été de Nice et en accompagnement d'opéra à l'orchestre à Hilversum, aux Pays-Bas. On le connaît surtout pour avoir dirigé pendant 38 ans les petits chanteurs du Mont-Royal. Au gré du temps, il a marqué l'histoire de la musique au Québec et même ailleurs. Un privilège que de partager la prochaine heure avec Gilbert Patenaude. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez passé une bonne semaine?
Absolument.
On va poursuivre notre entretien que nous avons amorcé la semaine dernière parce qu'il y a tellement à dire. Et j'ai découvert que vous avez enregistré beaucoup, beaucoup d'albums en carrière avec les petits chanteurs, puis aussi avec d'autres groupes. On les a mentionnés la semaine dernière, les chanteurs-musiciens, les voix d'ailes. Mais le premier, et c'est ça qui m'a fait sourire, ça date de 1978, et c'était les troubadours de Terre des Hommes.
Oui, oui.
Qu'est-ce que c'était que cet album?
Bon, nous étions 4, donc 2 filles, 2 garçons.
Oui.
Et puis, nous nous promenions sur le site de Terre des Hommes. Donc, nous chantions ici et là, c'était pour les touristes, au fond, et les gens tournaient un coin et disaient « Ah! Les troubadours sont là. »
Ah oui.
Et c'était de petits récitals, d'une quinzaine de minutes à peu près. Ça fonctionnait bien, sauf quand on avait le fou rire, puis on devait arrêter. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrivait assez souvent. Mais je pense que c'était une belle expérience.
En tous les cas, on a fait des recherches, j'ai pas tout... l'album, j'aurais peut-être pu vous le demander, vous en aviez sûrement une copie,
oui.
Mais ça fait partie du folklore de la famille Patenaude.
Absolument.
Vous avez aussi, à vos débuts, dû vous expatrier, c'est-à-dire peut-être pas quitter le pays, mais quitter au moins votre ville de naissance pour aller travailler très loin à Matagami.
À Matagami, oui. C'est, en fait, tout ça, je dirais... une histoire d'amour, dans le fond.
Il y a toujours une histoire d'amour quand on voyage.
Ma femme et moi, nous nous sommes connus à l'Université de Montréal. On était en sciences sociales, tout ça. Et je pense qu'on a décidé de tout laisser pour aller vivre ensemble.
Oui.
Et on s'est retrouvés à Matagami, parce que c'est là que j'ai pu décrocher un emploi à titre de professeur de musique. Et à l'époque, elle était mineure, j'ai dû faire la grande demande aux parents,
là,
qui n'étaient pas prêts à la laisser partir. Mais avec cet emploi, et en plus, ce qui nous a donné une chance, c'est qu'eux-mêmes sont allés vivre en Abitibi. Et comme on y allait, il y avait,
une proximité.
Une sympathie. Et ça a été merveilleux. Et, en fait... si je n'avais pas reçu une lettre du ministère de l'Éducation disant que j'étais non légalement qualifié, ce que je crois bien...
Parce que vous êtes allé enseigner la musique, là.
Ah oui, c'est oui. Ça. Parce que j'avais une formation musicale depuis l'âge de 7 ans. Et donc, si je n'avais pas reçu ça, on serait peut-être resté. On était heureux là-bas, puis vraiment, on aimait le paysage et tout. C'est extraordinaire. Les gens aussi. Et à cause de cette lettre, ben, on est revenu à Montréal, et là, j'ai fait 6 ans de conservatoire à temps plein. Et parce que je me suis dit, on ne peut pas baser une vie sur ça, sur non légalement qualifié. Alors, je me suis qualifié, et je dirais que j'ai fait un conservatoire d'enfer. D'enfer.
Alors, Matagami, ça a été votre pain des anges.
Oui.
On va entendre la pièce de César Franck, Panis Angelicus, interprétée au violon par Angèle Dubeau, mais chantée bien sûr par les petits chanteurs du Mont-Royal. Panis Angelicus, César Franck, interprété par les petits chanteurs du Mont-Royal sous la direction de Gilbert Patenaude, qui est avec nous. C'est un grand privilège que de l'accueillir. Maintenant, il a un petit peu plus de temps qu'il en avait.
Absolument.
N'est-ce pas? Parce que vous me disiez que la musique occupait tout votre temps pendant toutes ces années.
Ah, les activités musicales. Donc, je n'aurais pu faire que les petits chanteurs, mais j'étais déjà très occupé. Et mon premier directeur, qui était le père Rémi Legault, me le reprochait. Mais dis, qu'est-ce que tu fais? Et tout le temps à l'extérieur, parce qu'il trouvait que j'en avais assez là. Mais j'ai quand même poursuivi. Et j'avais un cœur différent chaque soir. Ou à Vaudreuil, ou au Théâtre d'Alérique de Laval. Ou... Bon, c'était sans arrêt. Et il y a quelque chose d'un peu insatiable chez moi. À tous les points de vue.
Vous êtes un extrémiste.
Oui.
D'une certaine manière.
Oui. Quand je dis, je ne pose pas de bombes, tout ça, je ne tue personne, mais je m'engage beaucoup. Ah oui. Je ne peux pas concevoir de faire les choses à moitié.
Est-ce que ce n'est pas ce côté-là qui rejoint ce que vous nous évoquiez la semaine dernière, votre côté spirituel, c'est-à-dire cette recherche intérieure qui est omniprésente?
En fait, je suis très religieux. Je ne porte pas de signe religieux et je pense que ce n'est pas nécessaire. Ce qui doit être le signe, c'est sa façon de vivre. Et je vous dirais, je suis religieux très, même pas catholique, mais chrétien, Jésus. Toutes les erreurs d'Église, il y en aura toujours, il y en avait du temps où il était sur terre. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait, ils l'ont trahi, ils l'ont vendu, ils ont tout fait. Bon, ça continue, c'est des êtres humains. Dans les atrocités vont toujours continuer. Mais le message de Jésus, pour moi, c'est, j'en connais pas de plus beau. Aime ton prochain comme toi-même. Si ça était réalisé, il n'y aurait pas eu tellement de guerres.
C'est un message extrême.
Ah, extrême.
Très révolutionnaire.
Absolument.
Ah, oui. Difficile d'application.
J'ai fait des chansons que Julien m'a demandé et que j'ai appelé « Chanson de mon père ». Et je dis que Jésus, c'est le plus grand révolutionnaire. Les Lénine puis les Staline à côté, là, c'est pour moi, au Mao Tse-Tung, c'est très, très, très pâle.
Vous venez de parler de votre aspect compositeur parce que vous aussi, vous composez. Vous avez tous les talents. Ah. On va justement écouter deux pièces que vous avez composées, je crois, oui. Qui ont pour titre « Sommeil à danser ».«
Sommeil à danser ». Et qu'est-ce que c'est d'autre?
La musique.
La musique, en fait, c'est tiré de Ciel convertible, poème de Patrick Coppens.
Et on entendra encore une fois Marianne au piano, Jacqueline Woodley, qui est votre bru,
oui.
Qui est l'épouse de Julien, qui est une soprano extraordinaire.
Ah oui, elle est très, très bien.
Et qui dirige d'ailleurs les voix d'elle. Julien Patenaude, qui est-il? C'est
oui,
votre fils.
Oui, ça me dit quelque chose, oui, vraiment. Et Sheila Hannigan, qui est la violoncelliste.
Et Patrick Coppens?
Patrick Coppens, en fait, qui est un Belge d'origine. Ah, c'est un homme assez remarquable.
Et que fait-il?
C'est un poète. C'est un poète, mais un érudit incroyable. Vraiment.
Image pure. sagesse de tous vos choix.
C'est très contemporain, d'une certaine façon.
Ah ben oui. Donc, c'est la musique que j'écris. Et résolument, en fait, j'ai fait dans ma vie beaucoup d'harmonisation, d'arrangement, comme on dit, même si c'est pas français comme mot, utilisé comme ça, beaucoup d'orchestration. Mais quand je parle de composition, je parle d'autre chose. C'est-à-dire, mon langage... Les gens ne sont pas obligés de l'aimer, et Dieu sait s'ils ne s'en privent pas, mais je trouve que ça doit être personnel.
C'est très court. Est-ce que vous avez tendance à utiliser une musique qui... J'ai de la difficulté à la définir, mais qui est comme une musique parlée, d'une certaine façon.
Il y a du vrai dans ce que vous dites, c'est que la musique vocale, pour moi, doit tenir compte, justement, des poèmes. Et je pense qu'à la limite, c'est la plus difficile à réaliser. Parce que la musique doit faire place à la poésie. C'est deux arts dans un.
Comme un dialogue.
Un dialogue et une complémentarité. Je reviens toujours à cette idée, probablement plus ou moins mythique, là, que les troubadours, les trouvères autrefois, étaient à la fois poètes et musiciens. Donc, ils allaient de ville en ville. C'était un peu les journalistes de l'époque. Et avec le temps, poésie et musique ont divergé de chemin, de sorte que pour les raccorder, il faut faire un immense effort, il faut se comprendre mutuellement. Et entre autres, dans ce ciel convertible, écrit par Patrick Coppens, pour lequel j'ai le plus grand respect, il a fallu tenir compte de la réalité des mots. Et la musique, ce qu'elle a voulu, c'est se fondre là-dedans, absolument, sans rien déformer. Respecter le poème. Ça a été pour moi l'essentiel.
Vous avez composé bien d'autres choses également.
Oui.
Des opéras.
Des opéras. Et
avec des livrets qui étaient écrits
de Thérèse,
par
ma conjointe.
Votre épouse, Thérèse Tousignan.
Qui a une très belle plume. On a fait aussi un petit opéra sur Le Petit Prince. Ensuite, moi je dis toujours, il y a trois livres pour moi essentiels. La Bible, Les Femmes de la Fontaine et Le Petit Prince. Il n'y avait que ça, il n'y aurait que ça, c'est parfait. Et puis, on a fait même un opéra pour enfants, Le Bal des 12 princesses.
Oui.
Un conte amérindien qui a été aidé par une indienne de Pointe-Bleue, Wananish. Et donc, on a fait aussi un opéra sur Marguerite Bourgeois, et on est allé là-bas, à Troyes, d'où elle était originaire, et on a appelé ça de Troyes à Ville-Marie.
Incroyable.
Ouais,
c'est une belle expérience, tout ça.
Très belle expérience. Malheureusement, le soir où ça a été créé, il y avait une tempête de neige, et on a eu peine nous-mêmes à s'y rendre, mais finalement, ça a
eu. Vous parlez des origines, vous parlez de la France, on va justement reculer dans le temps. Nous allons retrouver la France du 16e siècle avec cette pavane de Toineau Arbeau, interprétée par quelqu'un qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Quartum, que vous connaissez bien, Julien Patenaud.
Mais oui, ça revient toujours, je pense que je le connais.
Belle qui tient ma vie.
captive dans tes yeux, qui malhomme la vie de souris gracieux, viens donc me secourir où me faudra mourir, viens donc me secourir. Et tes divins propos ont échauffé la glace qui me brûlait les os et ont rempli mon cœur d'une amoureuse ardeur et ont rempli mon cœur d'une amoureuse approche donc ma belle, approche-toi mon bien, ne me sois plus rebelle, puisque mon cœur est tien, pour mon mal apaisé.
Qui a été traité à la moderne dans plusieurs pays, en France, même dans le milieu anglo-saxon. Mmh. On a adapté cette mélodie, mais quand on revient aux sources, il faut dire que ça a été écrit autour du, au milieu du 16e siècle, 1550, 1555, oui, quelque chose comme ça. Et Toineau Arbeau était un prêtre. Ce que j'ai pu retrouver en préparant cette émission, et ça, ça m'a beaucoup surpris, parce que on veut savoir qui est la, le personnage qui a pu pondre ou composer un tel chant. Et j'ai découvert que Toineau Arbeau était l'auteur d'un manuel qu'il a qualifié d'orchésiographie.
Oui.
L'orchésiographie, c'est la pratique de la danse, des pas de danse au 16e siècle. Alors, c'était comme très, très sérieux. On pouvait devenir un orchésiologue, probablement. Est-ce que ça, ça vous a tenté, la danse, un jour?
Oh, pas tant que ça. J'en ai fait un peu. C'est drôle à dire. Quand j'ai suivi la méthode d'Alcros, il y avait un peu de danse, là. Et je pense même que j'aurais pas été mauvais. Mais ça ne m'a pas assez intéressé.
Parce que ça peut être un jeu musical que de danser.
Oui.
Parlant de jeu, on peut parler de jeu de vague?
Ah oui. Le deuxième mouvement de Claude Debussy de la mer. Je dirais même que les origines de la musique moderne, pour le meilleur, pour le pire, des gens diront-ils, datent beaucoup de ça. Ce jeu de vague... Il y a comme ce que Gilles Tremblay, qui était mon professeur d'analyse, grand musicien, et qui adorait Mozart d'ailleurs, eh bien, appelait le discontinu, mais dans la continuité. Il y a beaucoup de phrases, d'interventions, qui ont l'air, à prime abord, disparates. Mais le tout est bien recousu, comme une courte pointe. Et cette musique... De la mer, et spécialement ce deuxième mouvement, nous fait revivre, nous fait ressentir, pas comme un scientifique, mais comme quelqu'un qui ressent les choses. Il y a même un océanographe, j'ai découvert ça, qui trouvait que Debussy avait ressenti cette mer encore mieux que lui-même, qui pourtant, scientifiquement, était plus près de la chose. Et pour moi, Debussy, c'est d'une imagination, d'un raffinement. Je dis toujours que la musique la plus raffinée en Occident, c'est celle de Claude Debussy.
Mmh.
Thank you.
Jeu de vagues, extrait de La mer de Claude Debussy, c'était interprété ici par l'Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction d'Herbert von Karajan et proposé par notre invité Gilbert Patenaude. On navigue vraiment dans tous les sens au plan musical, oui, parce que là on est dans ce qu'on pourrait appeler de la musique dite impressionniste, comme oui, les peintres l'ont été à son époque, oui, d'une certaine manière. La description que vous en avez faite préalablement correspondait aussi à cette sensation de la mer,
oh, à travers la musique. La sensation, tout à fait.
La sensation de la mer. J'ai un faible particulièrement pour la musique sacrée et j'ai l'expert devant moi. Si je vous parle de Jacques Berthier, ça vous dit quelque chose, sans aucun doute.
Oui, ça me dit quelque chose. C'est quelqu'un qui en a fait beaucoup en France.
Oui, oui. Et si je vous mentionne Jean-François Sénard?
Ah ben oui, je le connais.
Oui? Oui. Parlez-moi un peu de lui.
Eh bien, écoutez, je l'ai eu comme confrère au conservatoire, dans la classe de direction,
oui,
direction d'orchestre. Par la suite, j'ai été aussi chanteur, choriste pour lui, dans le groupe, je pense que c'était A Cappella, à Radio-Canada. Et donc, j'ai fait une saison complète avec lui. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien son affaire, très raffiné et tout ça. Donc, j'ai beaucoup plaisir à chanter.
Et qui vit maintenant en France.
Oui.
Je connais bien Jean-François et je lui ai mentionné que je vous recevrai.
Ah bon?
Alors, il nous a envoyé un petit mot, spécialement pour vous saluer. D'ailleurs, Jean-François Sénard est le chef attitré des Archets du roi René d'Aix-en-Provence. Il vous transmet toute son admiration pour le magnifique travail pédagogique et musical que vous avez réalisé avec les petits chanteurs du Mont-Royal. Le chant choral québécois, ajoute-t-il, mérite que ses artisans soient reconnus et mis en valeur. En outre, le travail de qualité effectué par Gilbert Patenaude auprès des jeunes est le plus sûr garant du développement de l'art polyphonique et j'en félicite grandement Gilbert et c'est signé Jean-François Sénard.
Ah, c'est plaisir.
Alors, il vous salue et lorsqu'il reviendra à Montréal, parce qu'il vient généralement aux 2 ans, ben, il vous donnera sûrement un petit coup de téléphone. Alors, puisqu'on parle de Jean-François Sénard, que diriez-vous d'entendre justement son chœur, en fait la Scola Saint-Sauveur qu'il dirigeait. Donc c'est Jean-François Sénard qui est à la direction et c'est son épouse Chantal Dezeux qu'on a eu le plaisir de recevoir à l'émission qui est à l'orgue. On entendra Martine Honora soprano, Elisabeth Maury mezzo soprano et Jean-Marie Cotin ténor dans le Requiem, dans un extrait du Requiem de Jacques Berthier. L'extrait est intitulé In Paradisum.
Dans la sainte
On ne peut pas ne pas être ému par une telle musique.
Tout à fait.
Quand on pense Sin Paradisum, on pense aussi à Fauré, son fameux Requiem, qui est... Vous parliez la semaine dernière de musique lumineuse quand il est question de Mozart. Dans le cas du Requiem de Fauré, c'est loin d'être triste.
Ah, c'est loin d'être triste.
C'est vraiment lumineux.
Qui disait, lorsque Fauré a fait son Requiem, il voulait montrer le ciel. Il dit alors que Verdi, lui, voulait montrer l'enfer. Ça résume pas mal.
Et curieusement, je crois que Fauré est agnostique.
Oui. Absolument, oui.
Mais sa musique démontrait qu'il était quand même en recherche.
Alors que Verdi était croyant. Voilà.
C'est curieux, n'est-ce pas? Vous, la foi, pour vous, est-ce qu'elle est... Vous m'avez dit que vous étiez très religieuse, mais c'est quelque chose d'important dans votre
Absolument.
Vie?
Absolument. Je vous dirais, puis comme on dit, j'ai pas de connexion avec le pape ou qui que ce soit pour avoir... mais c'est ce qui est plus important pour moi. Ah, c'est...
C'est votre fil conducteur?
Absolument. Plus que la musique. Et j'estime qu'on peut être croyant sans aimer la musique et qu'on peut aimer la musique sans être croyant. C'est, pour moi, c'est deux entités tout à fait différentes.
Mais quand on est croyant et qu'on aime la musique...
Oui, mais la foi, pour moi, est tellement importante qu'il n'y a aucune commune mesure. Je suis de ceux, on me trouve ridicule, et ils ont le droit, mais ça ne me fait pas changer d'opinion pour autant. Je suis de ceux qui croient que qu'au matin de Pâques, le tombeau était vide. Mais pas parce qu'on avait enlevé son corps.
Mais c'est le fondement de la foi.
Tout à fait. Comme dit saint Paul, il ne serait pas ressuscité, on est malheureux. Mais je crois, c'est fou, hein, qu'on est dans un monde fini. Y compris les étoiles, les galaxies, tout ça, il doit avoir une fin quelque part.
On vient de découvrir un trou noir à 55 millions d'années-lumière. La théorie d'Einstein qui vient d'être confirmée. Mais ça ne bouscule pas votre foi.
Non, parce que comment ça a commencé? Que ça a commencé, et on dirait qu'il ne se passe pas une décennie sans qu'on ajoute des milliards d'années. Ça ne dérange pas, moi. Et même si j'avais tort, ben, je le reconnaîtrais, même pas pour avoir raison, mais qui a fait et quoi a fait que ça a commencé? Je disais des fois à la blague au petit chanteur, j'ai dit, écoutez, vous voyez cette porte? Eh bien, il y a des carottes derrière. Nous voyons donc. Non, vous avez raison, il n'y en a pas. Et je vous dis pourquoi il n'y en aura pas. Ça n'a pas été semé. S'il n'y a pas un acte qui fait que quelque chose se développe, que ça se développe de façon...
Pas de génération spontanée.
Non, non, je ne crois pas. Et je crois que la résurrection de Jésus est à considérer du fait que lui est tombé dans un monde qu'on ne connaît pas, le monde infini. J'en connais pas plus que ça, mais...
Et votre espérance se nourrit de quoi?
Elle se nourrit justement que cette résurrection est peut-être possible pour tout le monde. Et aussi, ce qui me fait croire que c'est quand même quelque chose que les êtres humains pourraient, disons, vérifier, c'est le simple message « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais c'est jamais réalisé. Alors, souvent, je dis, quand on sort du jeu dans une journée, c'est une grosse journée.
Alors, on va réfléchir à tout cela en écoutant Jean Ferrat, que vous aimez beaucoup. Que serais-je sans toi? On peut penser à ce Dieu auquel on croit. Que serais-je sans toi? Et La Montagne, qui est un hymne à la vie et qui est interprété cette fois par Isabelle Aubray.
Que serais-je sans toi? Qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi? Qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement?
D'un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche et les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer
Que serais-je sans toi, Jean Ferrat, la montagne Isabelle Aubray, on réfléchit ensemble sur la notion d'espérance. Quand on fait du chant sacré et qu'on a la foi, à ce moment-là, c'est probablement toute une autre dimension qui s'ouvre à soi.
Oui, c'est sûr qu'à ce moment, là, comme vous dites, l'expression des chants sacrés, ça se connecte à quelque chose d'important. Et là, par exemple, de la Semaine Sainte, il n'y avait pas que ça, mais ça ne me laissait pas indifférent. À chaque fois, la veillée pascale, par exemple, j'adorais ça, la fête de la lumière et tout. Il y avait un autre élément aussi, quand le Christ est arrêté le vendredi saint, et il dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Moi, je frémissais chaque fois. Ah! Mais qui ne veut pas chercher la vérité? Et je pense qu'elle est là, moi, pour moi en tout cas. Et les chants qu'on faisait en accord avec tout ça, ça me parlait.
Quand vous voyez les inégalités sur Terre, les tensions intra-religieuses, les problèmes identitaires, les migrants, est-ce que ça ne remet pas parfois en cause ou en question toute cette espérance qui peut vous habiter en voyant autant d'injustices?
Ah, ça me contrarie beaucoup. Souvent, je dis, moi, là, si j'avais été Dieu, j'aurais pas donné tant de misère. Ou j'aurais pas créé. Ben non. C'est quoi le but? Mais c'est plus complexe que ça, je suis certain. Et souvent, je me dis d'abord, je crois qu'il y a eu une création. Pas en ces jours, là. Ça,
c'est métaphorique.
Une image,
oui,
bon.
C'est une image.
Mais d'abord, il n'y avait pas obligation de créer. Il n'y a rien qui nous est dû. C'est ce que je pense. Chacun, chaque être humain, c'était pas absolu que chacun vienne, ou que n'importe qui, ou qu'il y en a d'autres qui viennent. Mais on a cette chance de vivre avec des laideurs, c'est vrai. Et c'est toute la question du mal, j'en sais pas plus que... Et moi, je dis que j'ai la foi, mais pas triomphaliste. Je comprends rien.
Comme on dit souvent, le doute nourrit la foi.
Oh oui, certainement. Et puis, c'est pas avoir la foi pour répondre aux choses. J'ai pas plus de réponse. Mais je me souviens que Jean Rostand, le fils d'Edmond, disait, c'est aussi difficile d'être incroyant que croyant. Et je crois aussi.
Ça vous habite et ça anime également ce que vous pouvez poser comme geste dans votre vie, au
Absolument.
Quotidien.
En tout cas, dans mon agir, ça joue beaucoup.
On revient à la musique québécoise. Intéressant, à tout le moins, le propos que nous venons d'avoir sur cette question de foi. Mais on va revenir à la musique québécoise. Gilles Vigneault a été présent dans notre entretien. On va l'entendre chanter. Vous savez qu'il a refait ses chansons de début. Il a refait ses chants d'enfance ou d'adolescence ou de début. Il a refait une chanson qui est devenue un classique folklorique presque. Joe Monferrand. Alors, on va l'écouter, nous la chanter. Pour vous, cette chanson-là a-t-elle une signification particulière?
Pour moi, elle résume Gilles Vigneault.
Voilà, tout est dit.
Oui.
Le cul sur le bord du Cap d'Aman, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai jasé un petit bout de temps avec le grand Joe Monferrand. On a parlé du vent, de la pluie, du beau temps. Mais j'ai dit, Joe, dis-moi comment t'es devenu aussi grand que t'es devenu un géant. Il dit, ben le cul sur le bord du Cap d'Aman, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai jasé un petit bout de temps avec un loup et le firmament. L'autre jour m'a dit, mon petit garçon, ben si t'apprends bien ta leçon, tu viendras que ça sera pas long à faire des poids de 100 pieds de long. J'ai dit, Joe, faut que ça décolle, parce que je viens de chercher cette école, puis par ici, pour ses 20 ans, on est grillé pour perdre son temps. Ben t'es grillé pour perdre ton temps, le cul sur le bord du Cap d'Aman, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai jasé un petit bout de temps avec le grand Joe Monferrand. Pis dit, si tu veux faire un vrai géant, va boire même dans la rivière, assieds-toi sur les montagnes, puis lave-toi dans l'océan, essuie-toi avec le vent, éclaire-toi avec la lune, dans les pieds sur le bord de la dune, et puis la tête au bout du champ, et puis la tête au bout du champ, le cul sur le bord du Cap d'Aman, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent, c'est une posture de premier plan pour te donner de l'entre-jambe. Puis un beau jour tu sentiras en dessous tes pieds tourner la terre. Et puis tu comprendras le chinois aussi bien que la reine d'Angleterre. Tu sauras fermer ta gueule, t'arrêteras de faire des sparages pour écouter les nuages. Mais là, petit gars, tu seras tout seul. Là, mon petit gars, tu seras tout seul, tout seul. Le cul sur le bord du cap de main, les pieds dans l'eau des adorants. Pas fameux pour faire de l'argent, mais c'est bien bon pour perdre son temps. J'ai jamais revu le jour, mon Fernand, mais j'ai suivi sa petite idée. Puis quand j'ai voulu m'arrêter, j'avais déjà l'âme d'un géant. Je suis remonté sur le Cap-Diamant pour raconter mon histoire. Restez là, à la nuit noire, à parler dans l'air du temps. Puis à parler pour l'air du temps, les pieds sur le bord du Cap-Diamant, le cul dans l'eau du Saint-Laurent. C'est pas fameux pour les cancans, puis pour me dire c'est fatigant. Autant vous dire la vérité, j'ai pas grandi d'un sacré pouce. Moi seulement le job me push, quand je m'arrête de tourluter, je reviens à bord des bordins, je mets la ville dans la campagne. Pitié, j'en prends son violon, que ma province trouve son jupon. Que ma province trouve son jupon. Le cul sur le bord du Cap Diamant, les pieds dans l'eau du Saint-Laurent. J'ai josé un petit bout de temps avec le grand Jean Monferrand. Il est homme, il est l'aide, 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 il est l'aide.
En quoi Vigneault aurait-il pu mieux écrire ce qu'il est lui-même à travers cette chanson? C'est incroyable.
Et essuie-toi avec le vent, éclaire-toi avec la lune. Moi, ça m'a touché. Ah, incroyable.
Gilbert Patenaude, on aurait pu poursuivre l'entretien pendant longtemps, mais je ne peux pas vous quitter sans vous poser la question fort simple, mais avec une réponse fort compliquée, vous connaissant à peine, mais devinant qui vous êtes. Avez-vous des projets d'avenir?
Il faut le dire, hein? Oui, plein.
Alors, racontez-les-moi, quelques-uns.
J'ai fait beaucoup de musique vocale. Et là, j'ai le projet de faire beaucoup de musique instrumentale.
Vraiment?
J'en ai fait... Bon, j'ai fait entre autres un quintet avant, j'ai fait un quatuor à cordes, j'ai fait une pièce de piano à l'intention de ma fille pour son prix d'Europe.
Oui.
Et mais là, j'ai un quatuor à cordes à écrire, et probablement des choses pour orchestre aussi, parce que je veux avoir une certaine liberté. Des coups des franches. Quand je vous disais, lorsqu'on écrit avec des poèmes, le poème assujettit beaucoup la musique.
C'est vrai.
Et pour moi, aussitôt qu'il y a des paroles, c'est elles qui doivent primer.
Mm-hmm.
Je ne conçois pas qu'une musique enterre les mots.
Donc la musique supporte le mot.
Oui, oui, complète, essaie de créer l'atmosphère pour le mettre en évidence et tout ça. Et c'est pour ça que, par exemple, des paroles mal transmises ou un texte insignifiant, c'est une perte de temps. Et ça, c'est une chose pour moi très importante, ne pas perdre de temps.
Alors, ne pas perdre le temps, est-ce que c'est votre définition du bonheur?
Oh, en partie, certainement. Oui. Oui. Faire le mieux possible avec le temps dont on dispose.
Alors, au nom de tous ceux qui sont passés sous votre baguette et ceux qui ont entendu le résultat de cette baguette en écoutant les chants merveilleux interprétés par toutes ces chorales et bien sûr par les petits chanteurs du Mont-Royal, un immense merci pour cette contribution à l'essor de la musique et aussi par le fait que vous avez pu toucher nos âmes, nous permettre de mieux vivre. Et comme vous le disiez si bien, mieux vivre, ça nous habite constamment quand on a une espérance ou quand on a le goût de mettre un peu de joie dans cette vie qui parfois pourrait être tristounette quand on regarde l'actualité. Merci beaucoup de ce passage, Gilbert Patenaude.
Tout le plaisir est pour moi.
Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Pierre Degagné, Armand Dubois à l'animation et la réalisation. Et puis, vous serez probablement heureux, mais je vais vous laisser la présenter, la toute dernière pièce qui va nous servir de thème musical de fermeture.
Ah, le Ave Maria de Jacques Arcadelt, que je connais depuis si longtemps. Je l'ai chanté comme petit garçon et tout ça. Et c'est d'une simplicité mais d'une beauté inaltérable.
Et c'est chanté par, bien sûr...
Oui, les petits chanteurs du Mont-Royal.